Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Samuel, chapitre 8, et nous allons lire un premier passage, si vous voulez bien. Je dirais que ce ne sont pas seulement des principes bibliques, ils sont bibliques, mais ce sont des principes de vie. Parce qu'on les retrouve finalement à tous les niveaux de la société, vous allez comprendre. Alors ce que Dieu nous demande, ce n'est pas plus compliqué que finalement, eh bien, quelque part, ce que le monde fonctionne avec ces principes aussi. Et si le monde fonctionne avec la connaissance qu'il a, c'est-à-dire peu de connaissance de la volonté de Dieu, en tous les cas nous qui connaissons la volonté de Dieu, alors on se précipite à vivre ce que Dieu nous demande, parce que c'est Dieu qui nous le demande, avec des promesses formidables, des promesses de bonheur, d'épanouissement et des promesses de vie. Alors dans 1 Samuel, je vous ai dit, nous allons lire donc ce passage. Chapitre 8, et à travers quelques versets. Verset 1er. Lorsque Samuel, le prophète, hein, bien sûr, devint vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné. Ils ont pour servir d'autres dieux. » Voilà pour cette première lecture. La seconde, nous la ferons dans le livre des Juges. Et là, vous allez reconnaître tout de suite de quoi il s'agit. Livre des Juges, chapitre 21, verset 25. C'est-à-dire que c'est la conclusion. Écoutez bien, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon, il faisait ce qu'il voulait, tout simplement. Permettez-moi un petit rappel. Le livre de Josué relate la conquête du pays de Canaan par Israël, sorti d'Égypte. Et le livre des Juges fait état de l'installation. En d'autres termes, la prise de possession du pays que Dieu leur donne, et ensuite de la gérance de l'héritage de Dieu en terre promise. Donc d'abord conquête, Josué, ensuite on s'installe, et Dieu avait donné des principes pour que finalement cet héritage extraordinaire puisse être géré sagement, intelligemment et spirituellement dans cette terre où qui a la réputation, où la Bible nous dit souvent que c'est là où coule le lait et le miel. Vous avez compris que c'est une image du bonheur, tout simplement. L'histoire d'Israël, particulièrement dans le temps des juges, est à mettre en parallèle avec le peuple chrétien que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, Ancien Testament, Nouveau Testament, le peuple chrétien qui est rentré en possession de l'héritage du salut, et nous l'avons exprimé à travers ses chants et ses louanges,
et en possession de la vie éternelle, ce qui fait que nous avons des convictions. Nous savons en qui nous avons cru. Et Dieu nous a donné, eh bien là, un privilège particulier d'être ses enfants. Alors, toute la question, naturellement, que nous allons relever ce matin, n'est pas de conquérir pour obtenir, puisque c'est déjà fait, puisque nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le salut, la grâce de Dieu, les moyens de, finalement, d'obtenir par la prière de la foi, eh bien, tout ce dont nous avons besoin. Alors, je le répète, il ne s'agit pas pour nous de conquérir pour obtenir, mais de savoir garder fidèlement le trésor qui nous a été confié. Alors que les gens viennent dans l'évangélisation et se convertissent, eux, ils rentrent un petit peu dans l'épopée de Josué. Vous entendez par là, c'est-à-dire que, eh bien là, ils rentrent dans un contexte où ils découvrent les choses, comme Josué a découvert le pays de Canaan. Et puis une fois que les choses sont acquises, une fois que les choses, que nous sommes sauvés, que nous sommes dans le peuple de Dieu, que nous servons le Seigneur, que ceci et cela, eh bien tout l'art, je dirais, c'est de garder finalement ce qui nous a été donné. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre étape. Alors s'ouvrent deux possibilités. Soit nous recevons, bien sûr que nous avons reçu et nous gardons, et Dieu va continuer et va nous faire rentrer dans de nouvelles dimensions insoupçonnées, ou alors nous allons perdre. C'est l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas finalement du côté de Dieu que viendra le problème, ce sera de notre côté. Et ça sera toujours un positionnement de foi, comme le premier jour, comme au moment où nous avons découvert l'Évangile, comme dans la découverte du premier amour, vous savez, dans Apocalypse chapitre 3. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as finalement abandonné ton premier amour. Donc vous connaissez tout cela. Le Nouveau Testament nous exhorte à gérer notre avoir spirituel, ce que Dieu nous a donné, afin de rentrer toujours plus avant dans les plans divins de développement et d'épanouissement. Et Jésus n'a pas parlé en vain quand, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il nous a dit, à travers une image, une allégorie, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, si le sarment demeure attaché au cep, eh bien vous porterez beaucoup de fruits. » C'est un petit peu la manière de présenter cette introduction, si vous voulez. Et malheureusement, nous le disions encore récemment, beaucoup de gens sont rentrés dans le pays de Canaan spirituel, et malheureusement, ils sont plus au milieu de nous aujourd'hui. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi d'une bénédiction, eh bien c'est devenu quelque part quelque chose qui s'est évaporé, quelque chose qui n'a plus de lieu d'être pour ces gens. Et c'est terrible cela. D'une bonne chose, finalement, l'usage que nous en faisons, soit par la négligence ou par l'excès, ça devient quelque chose de négatif. Alors l'apôtre Paul l'a écrit ça. Et il le dit en substance à travers un verset biblique que vous connaissez. Il dit ceci, « Si conformément à la vérité que vous avez reçue en Jésus, » vous voyez ce que je veux dire, l'évangile, tout simplement, « c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à mourir à vous-même, à renoncer à vous-même, à lâcher toutes sortes de choses qui font partie de notre humanité et de notre nature propre, alors vous avez été instruits à vous dépouiller, à vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence, parce que ça passe par là. » et à revêtir l'homme nouveau. Quand Dieu a fait rentrer Israël en Canaan, le sortant de l'infamie d'Égypte, c'était pour qu'Israël devienne un peuple d'hommes et de femmes nouveaux. Des gens changés dans leur mentalité, dans leur conception, dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'approcher de Dieu. Ils avaient connu les idoles d'Égypte, maintenant c'était plus pareil. Et c'est un petit peu ce que Paul veut nous dire, à vous revêtir de l'homme nouveau, un homme qui se régénère de l'intérieur. Alors il y a d'une part soit la régénération, une transformation, où les gens diront, « Vois, j'ai connu cet homme avant, maintenant je le connais depuis, et je sais que cet homme et cette femme sont des gens qui ont été changés. » Et là c'est une gloire pour Dieu. Des gens qui ont été changés, il ne parle plus, il ne pense plus, il n'a plus le même état d'esprit, il ne réagit plus pareil. Alors c'est ça la régénération, une transformation, et de l'autre c'est la dégénérescence. Et vous savez que c'est encore pire quand un chrétien a connu l'évangile et qu'il rétrograde, vous savez ce que nous dit Pierre? Qu'il devient sept fois pire, et on le sait très bien. Un frère, une sœur qui rétrograde c'est quelque chose de terrible. D'abord, c'est d'une grande tristesse pour l'Église. C'est un drame. C'est quelque chose de terrible d'avoir connu la vie et de retourner à la mort. Et ça s'appelle une dégénérescence. Parce que tout à nouveau, nous retombons dans les mains de celui que nous avions quitté auparavant, qui nous menait inconsciemment, mais maintenant nous ne sommes plus inconscients. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Alors à ce moment-là, eh bien, ça devient quelque chose de dramatique. Alors nous allons, si vous voulez bien partager quelques pensées ce matin, nous allons voir les altérations et les déchéances de la vie chrétienne, de la vie spirituelle d'Israël. Mais bien sûr, en gardant une pensée sur ce que finalement nous avons besoin de savoir pour nous aussi. Et je crois que si cela est dit, et si cela est souvent rappelé dans la Bible, c'est pour que nous allions jusqu'au bout, frères et sœurs, que nous tenions le coup, que nous allions véritablement jusqu'au terme de notre voyage, parce que tout n'est pas gagné, tout n'est pas finalement dit. On peut toujours chanter des cantiques en disant « Je suis sauvé, mais il faut que je sois fidèle jusqu'au bout ». Et ça, c'est important, ça s'appelle de l'exhortation, ça, au niveau de la prédication, c'est de l'exhortation. Dieu avait donné aux Hébreux des bases excellentes, et vous le savez, à commencer par les 10 commandements qui résument tout le reste. On pourrait dire que ces paroles que Dieu avait données à Israël par le truchement de son serviteur Moïse étaient une source de vie prospère et d'enrichissement moral. Dans le livre de Deutéronome, je voudrais simplement vous rappeler quelques textes, mais vous les connaissez, mais je veux quand même les rappeler. Dans Deutéronome, je lis ceci. Dieu dit à Israël, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. » Et ça, c'est un mot très fort, « aimer ». C'est plus que tout le reste. D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et écoutez la suite. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Afin que l'Éternel te bénisse. Vous savez, il y a une coutume en Israël, c'est une salutation, alors shalom, mais c'est formulé dans un psaume où il est dit ceci, que l'Éternel te bénisse, et puis il est ajouté autre chose, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas parce que nous avons la bénédiction de Dieu, nous avons besoin d'être gardés par le Seigneur et nous avons besoin de nous garder nous-mêmes. Alors ça sera la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et ça se vérifie. Mais pour Israël, il y a eu faillite. Et j'aimerais partager avec vous rapidement 3 dangers, 3 menaces réelles d'importance qui ont jalonné toute l'histoire d'Israël et qui, à ne pas manquer, jalonnent aussi l'histoire de l'Église, l'histoire des chrétiens, l'histoire des enfants de Dieu. Nous allons le voir, 3 dangers. La désobéissance, la cohabitation ou l'imitation de ce qui se passe autour de nous, et l'assoupissement, et entendez par là l'assouplissement spirituel. Alors on va voir ça. Premièrement, la désobéissance et le détournement. Dans le livre des juges, que je voudrais lire un texte, livre des juges, au chapitre 2, et au verset 1 à 3, il est dit ceci. C'est Dieu qui prévient Israël. Verset 1er, « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Et ça, il faut en être convaincu que ce n'est pas Dieu qui va rompre l'alliance qu'il a faite avec nous. Ça ne viendra pas de lui. Et jamais de lui, je peux vous l'assurer. Il le dit. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Alors, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et Dieu dit, pourquoi avez-vous fait cela? Vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Alors quand Dieu pose une question, c'est qu'il sait déjà la réponse. Mais il la pose quand même. Et vous avez remarqué que Dieu pose des questions. Mais il attend que nous lui répondions, parce que notre réponse que nous lui donnons est quand même un signe de notre part d'un mouvement de repentance quand on répond. Dans le sens le plus positif, naturellement. Une chose qui est certaine, que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'obéissance partielle ne peut être agréable à Dieu, et nous ne pouvons invoquer des excuses et des prétextes de faiblesse, parce que c'est Dieu qui nous rend fort. Nous ne pouvons invoquer des prétextes de peur, parce que c'est Dieu qui rassure, par la foi. Et nous pouvons invoquer des prétextes d'intérêt d'argent ou autre chose, de convoitise, de possession de biens, puisque c'est Dieu qui donne tout. Alors il ne nous reste pas grand-chose. Hein. Seigneur, oui, je veux bien, mais... Alors il n'y a pas de mais. Je dis bien, la force, c'est lui. La peur, il nous donne la foi, pour eux, qui est l'antidote de la peur, de la crainte et l'intérêt, mais c'est lui qui donne tout. Donc, détournement et désobéissance. Le deuxième danger... C'est la cohabitation, et ça, vous allez bien vous situer, puisque ça a toujours été, mais ça l'est encore de plus en plus dans le monde dans lequel nous vivons, la cohabitation et la promiscuité avec Canaan pour Israël. Dieu leur avait donné un pays extraordinaire, formidable, c'est Israël d'aujourd'hui, mais tout autour, il y avait toutes sortes de peuples païens, toutes sortes de peuples dépravés, toutes sortes de peuples occultes, avec toutes sortes de choses abominables jusqu'à tuer leurs enfants en sacrifice à leur Dieu. Et le problème, c'est que finalement, l'Église aujourd'hui se trouve dans un monde qui n'est pas très saint. Qui n'est pas très saint moralement, qui n'est pas très saint intellectuellement, qui n'est pas très saint spirituellement, qui n'est pas saint du tout d'ailleurs spirituellement. Il faut bien le dire. Où, finalement, pour Israël, les fréquentations ont éveillé de mauvais désirs d'imitation, puis... de séduction et également des tentations qu'Israël n'a pu résister. Le veau d'or, par exemple. Et puis, tant de choses autour qu'Israël voyait, parce que bon, ben, les frontières, ce n'étaient pas des murs. Hein. Et ils voyaient bien ce qui se passait. Et puis, comme ils n'avaient pas été au bout de la tâche pour chasser tous les Cananéens, il y avait des Cananéens qui vivaient au milieu d'eux. À commencer par la grosse erreur que Gédéon avait fait en laissant les Gabaonites au milieu d'Israël. Ça, c'est une autre histoire, nous l'avons vu déjà. On en a parlé dans un culte. Et le monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous sommes plongés dedans. Hein. On peut toujours avoir cette réaction de dire « Ah, mais Seigneur, depuis que je suis chrétien, mon église, maintenant, on ferme les portes et les fenêtres et on se met de l'air conditionné, on se... d'accord ? Et on ne voit rien, on n'entend rien, on se met en... en vase clos, mais ça c'est complètement contraire à l'esprit de l'évangile parce que Jésus a prononcé cette parole pour nous. Aujourd'hui, vers son Père, c'est une prière. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, on est d'accord là-dessus. Et il faut vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Pas vivre comme le monde, pas vivre avec l'esprit du monde. Mais on est bien obligé, surtout que Jésus nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, faut avoir des convictions, c'est tout. Pour pouvoir résister. Alors le problème d'Israël, c'est qu'il y avait cette promiscuité qui favorisait des fréquentations. Et tôt ou tard, les Israélites, les Hébreux, ont vu que ben, eux, ils servaient l'Éternel, mais les autres, ils servaient des Baals, Astarté, Moloch, et tous ces dieux de l'Antiquité, qui, je voudrais quand même vous le dire, aujourd'hui existent toujours, mais ils ont seulement changé de nom. Alors ils se sont dit mais pourquoi on ferait pas comme eux? Alors ils se sont livrés à l'idolâtrie, et vous savez que toute idolâtrie d'une manière ou d'une autre amène à la dépravation et à l'immoralité, les dérèglements. Et pourtant il y avait cette recommandation que nous avons dans le livre de Deutéronome, je cite, je lis pour vous si vous voulez, à travers le verset 2, quand il est dit ceci. Quand Dieu a dit à Israël, vous allez rentrer maintenant dans le pays que je vous donne, et Dieu leur dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura livré toutes les nations dont tu vas faire la conquête de leur territoire et de leur pays, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Bon, ça c'est l'Ancien Testament, on le comprend, mais dans le contexte naturellement que vous connaissez. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, non pas qu'il y aura quelque chose, parce que ce sont des êtres humains, mais vous avez compris pourquoi il n'y avait pas d'échange dans ce domaine, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voilà la question, n'est pas de la répugnance de mon semblable, hein, parce que ce n'est pas un chrétien, parce que c'est un cananéen, parce que c'est un païen. On n'en est pas là, hein. Au contraire, Jésus nous a demandé d'aimer notre prochain. Mais le problème, c'est que si nous ne sommes pas assez assurés dans notre foi, dans nos convictions personnelles, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas nous qui allons l'influencer, c'est lui qui va nous influencer. Et le problème, il est là. Le problème, il est là dans les mariages. Le problème, il est là dans des associations peut-être commerciales et financières. Il est là dans bien des liens que nous avons. Et à un moment donné, eh bien, ce n'est pas nous, alors que nous devons influencer. Nous devons apporter la vie à des gens qui sont morts et non pas ceux qui sont morts nous apporter la mort. On comprend là. C'est pour ça que j'ai parlé de principe. Vous n'allez pas vous arrêter aux mots, frères et sœurs. Mais il faut voir que derrière les mots, derrière l'histoire, il y a là quelque chose de beaucoup plus, une autre portée spirituelle. C'est en raison de cette imprégnation qui va venir dans notre vie. Si le Seigneur nous a retirés du monde, ce n'est pas que nous retournions dans le monde, dans l'esprit du monde. Mais nous avons une tâche, lumière et sel. Alors c'est pour cela que les choses sont dites. Le troisième point, troisième danger, troisième menace, c'est l'assoupissement. L'assoupissement dans la bénédiction reçue. Et là, c'est aussi un autre danger qui guette l'Église. Il y a des temps fastes. Il y a des temps où, à un moment ou un autre, eh bien, on sent que l'Église rentre dans une autre dimension. Alors qu'elle a combattu, alors qu'elle était souffrante, qu'elle était persécutée, ça c'est l'histoire générale de l'Église chrétienne. Mais c'est aussi l'histoire de l'Église locale. C'est aussi l'histoire de chacune de notre vie. La conversion a souvent été le moment d'âpres combats, de grandes joies, mais d'âpres combats, de luttes. Et là, des conflits qu'il y a eu. Et à un moment donné, eh bien, nous sommes rentrés, parce que nous avons fait confiance au Seigneur, nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension. Et nous pouvons dire comme l'histoire d'Isaac, quand il était en train de dépoussiérer les puits des Philistins, il nous est dit à Rehoboth, vous connaissez votre Bible, à Rehoboth, il nous est dit que Dieu l'a mis au large. Et il arrive à un temps dans notre vie chrétienne que Dieu nous met au large après des mois et des années de combat. Nous l'avons vécu, ça. Alors on dit, merci Seigneur, merci parce que je n'en pouvais plus, tu es venu véritablement maintenant me donner de rentrer dans une nouvelle dimension. Mais il y a un autre danger qui nous attend à ce moment-là. Parce que nous avons vaincu les puissances, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu les tentations, nous avons vaincu toutes sortes de choses. Mais maintenant il y a un autre danger, c'est de nous installer. Et finalement, de nous assoupir. Et ça, vous le connaissez, nous le connaissons dans le monde dans lequel nous sommes, et à travers tous les siècles, l'Église l'a connu, c'est la lassitude, même dans la vie chrétienne. Ce sont les habitudes qui deviennent des traditions. Alors, ça fait parler beaucoup de gens, les traditions. C'est la routine. Et vous savez qu'avec la routine, eh bien, on fait plus grand-chose. On sait faire les choses. Avec la routine, on a l'habitude. Avec la routine, on fait les choses les yeux fermés. Avec la routine, on a de l'expérience. Mais attention, le danger est aussi là, précisément. Parce que nous sommes appelés à communier et à avoir une relation avec un Dieu vivant. Et il ne nous a pas demandé de nous asseoir et de rester tranquillement en disant « Maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que tu as vaincu certaines choses, que tu as pris le dessus sur toi-même, que tu as la paix en toi-même, que tu as la paix avec les autres, que le diable te fiche la paix, parce qu'on peut dire ça aussi, alors maintenant tu peux t'endormir sur tes lauriers et tu attends le moment où soit je vais revenir ou je te prendrai avec moi. » Eh bien, ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça. Et c'est justement le troisième danger. Il est écrit dans la Bible, Dieu parle à Israël, et il dit ceci, « Lorsque tu mangeras, et écoutez, lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, parce qu'on peut manger, juste, Mais là, il est question de manger et de se rassasier, c'est-à-dire avec un contentement bienheureux. Tu béniras l'Éternel pour le pays qu'il t'a donné et garde-toi dans ton rassasiement, dans ton contentement, dans ta satisfaction d'être un bon chrétien, d'oublier l'Éternel. Vous savez, je voudrais vous dire et vous rappeler que si le diable ne peut pas nous avoir par la souffrance et la guerre et les combats, il va nous avoir par la jouissance. Parce que ça, ce sont les deux leviers dont il se sert, la souffrance et la jouissance. Il commencera toujours par la guerre, et il en a eu quand même quelques-uns. Mais par la souffrance, ceux qui ont été vainqueurs hier peuvent devenir des vaincus, hein, par la jouissance. En disant maintenant, c'est bien, c'est formidable. Et il est dit, souviens-toi de bénir le Seigneur. Et frères et sœurs, il y a une chose qui me réjouit, c'est que ce matin, vous êtes là pour bénir le Seigneur. Et je sais qu'il y a une chose aussi qui m'attriste, c'est qu'il y en a beaucoup. L'Église devra être 5-6 fois plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui à Saint-Nazaire. Et il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas là pour bénir le Seigneur, dans le sens où ils ont reçu beaucoup, mais ils ont oublié Dieu. Et ça, c'est dommage. Enfin, je dirais, excusez-moi, c'est un euphémisme. C'est terrible. Et tant que vous vous présenterez devant Dieu pour dire « Merci Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir sauvé », vous serez vivant. Toutes les grâces que Dieu accorde ici-bas ne sont pas en elles-mêmes des finalités et des buts. Je suis d'accord quand j'entends un chrétien dire « Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis l'Église ». Mais je suis d'accord naturellement. Mais on ne vient pas simplement parce que le Seigneur bénit, on vient vers le Seigneur pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est lui-même. Ayons toujours en vue les réalités qui sont en haut. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrira d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Aspirez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Je ne sais pas s'il y a une maladie des yeux qui... Je ne sais pas là comment... Celui qui regarde un œil en haut et un œil en bas. C'est pas... On sait qu'il y a le strabisme, soit comme ça, ou soit comme ça, mais dans l'autre sens, je ne sais pas. Il faudrait peut-être l'inventer pour les chrétiens. Eh oui. Je ne sais pas. Alors, les Israélites s'installent en Canaan et ils s'y endorment confortablement. Un petit clin d'œil. Ne vous endormez pas sur le parquet. Surtout. Non, non. De toute façon, je me chargerai de vous réveiller. Il est tout neuf. Mais... Non, non. On continue. Hein. Ça, c'est un moyen, frères et sœurs. On bénit le Seigneur pour cela. C'est une grâce de Dieu. Mais c'est un moyen et on ne va pas s'arrêter à ça. Il faut aller plus loin. On ne fait pas une église, on ne construit pas une église pour dire on a une belle église. Non. Quelque chose que l'on peut offrir de confortable pour recevoir des hommes et des femmes pour qu'ils se convertissent. Mais le but, il n'est pas là, hein, frères et sœurs. On est bien d'accord. Alors ils s'installent et ils s'endorment confortablement et en sécurité puisqu'il n'y a plus de danger. Enfin, apparemment. Vous savez que sur le plan naturel, l'assoupissement du sommeil rend inconscient de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, quand je dors, tout ce qui se passe à l'extérieur, je ne m'en occupe pas. Hein. Voilà, de toute façon, tout est noir. Mais en principe, c'est comme ça que ça se passe. De même que la somnolence spirituelle rend aveugle aux réalités menaçantes de ce monde spirituel qui nous environne, de tout cet environnement qui est là autour de nous. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à provoquer Dieu et de nous dire, comme dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 17, « Parce que tu dis que tu es riche, parce que tu dis que tu es, que tu vois bien, parce que tu dis que tu n'as besoin de rien, parce que ceci, parce que cela, Dieu lui dit, mais je te vomirai de ma bouche. Alors que tu ne sais pas que tu es aveugle, que tu es nu, que tu es dépouillé, que tu es dans l'illusion. Vous savez, hein, c'est des paroles qui pèsent, hein, quelque part. Eh oui. Je tirerai une première conclusion, frères et sœurs. On a parlé de la désobéissance. On a parlé de la limitation, cohabitation, imitation. Et on a parlé de l'assoupissement. pour nous dire que le relâchement de la discipline, et on y arrive là, le relâchement de la discipline personnelle. Moi, je ne suis pas là pour faire de la discipline ecclésiastique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'autrement, je serais peut-être avec la robe et puis tout le reste. Hein. Mais ça ne m'intéresse pas, je me prendrai les pieds dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas à ce que Dieu m'a demandé. Il ne m'a pas appelé à ça. Ce n'est pas de la discipline ecclésiastique. Discipline personnelle et cause, l'indiscipline ou la perte de la discipline, le relâchement plutôt, est cause de misère, d'égarement, voire de chute et de pièges qui sont tendus pour que nous trébuchions. Et vous savez que notre monde est en train de réagir devant toutes les indisciplines ou incivilités ou le manque de citoyenneté depuis une trentaine, quarantaine d'années. Hein. Vous connaissez un petit peu la mentalité de ce qui se passe. On se moque de l'autorité, on se moque de beaucoup de choses, et aujourd'hui on est en train de rectifier le tir, mais va-t-on pouvoir le faire ? Parce que si ce n'est qu'une morale, ça ne va pas aller loin. Hein. Faire la morale aux gens, vous savez... Alors on s'aperçoit que quelque part, eh bien, on a besoin de prendre finalement la notion de tout cela. Et puis, nous allons rentrer maintenant brièvement dans un second volet de notre réflexion. C'est que la chute, ce qui était pour Israël, et la dégénérescence du peuple de Dieu hier a eu pour origine une carence, je dis bien un défaut, au niveau de l'autorité des chefs du peuple. Tant qu'il y a eu Moïse, d'accord. Tant qu'il y a eu Josué, d'accord. Mais on va lire la suite. Vous allez voir ce qui s'est passé. Quand il y a des hommes qui ont cette autorité de Dieu, d'abord avec un ministère, parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans le ministère, qui n'ont pas de ministère, qui sont peut-être bien dans une place de service, mais pas confondre un service et avec un ministère don. Un ministère don, c'est autre chose. Alors, quand on veut bricoler un peu de ce côté-là, ça ne va jamais très loin. Je peux vous dire que ça tourne mal à un moment donné, parce qu'on fait les choses forcément charnellement, puisqu'on n'est pas appelé spirituellement. Appelé au salut spirituellement, mais peut-être pas pour être investi dans une responsabilité à un autre niveau. Et on s'aperçoit, et ça c'est vrai dans le monde, mais c'est vrai dans l'Église, c'est qu'il y avait pour Israël une carence dans l'autorité des chefs du peuple. Trois fois l'expression, et vous allez comprendre pourquoi le mot est cité, le mot de roi, trois fois l'expression revient, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il lui semblait bon. Imaginez-vous qu'on soit encore dans les élections du mois d'avril, toujours pas de président de la République. Moi, j'aurais été obligé de me présenter parce que, par défaut... Mais imaginez-vous que l'on traîne, parce que les anciens, vous avez connu sous la Troisième République, ou la Quatrième République, pardon, des gouvernements qui duraient 3-4 jours. Hein. Bon. Et la confusion qu'il pouvait y avoir dans un pays quand c'est comme ça. Alors, enfin moi j'ai pas connu ça, mais on a quand même fait un peu d'histoire. Alors, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est cité dans le chapitre 17, dans le chapitre 18 et dans le chapitre 21 du livre des juges que nous avons lu tout à l'heure. J'ai pris qu'un verset, mais c'est la même chose. C'est le même verset. L'autorité. Alors quand il s'agit de roi, c'est pas de dire « je suis le roi et vous allez maintenant m'adorer hein, », c'est pas ça. Hein. Mais le roi représentera toujours dans l'esprit humain une autorité de référence. Et vous savez que nous avons un roi. On a un roi en tant que chrétien. Et nous sommes sujets d'un royaume. Un royaume ici-bas et un royaume en préparation. Enfin, pour nous, il est en préparation, mais il est déjà fait dans les lieux célestes. Bon. Alors, puisqu'il n'y avait plus rien à ce moment-là, la question que nous posons et que nous réfléchissons ce matin, il n'y avait plus de normes, il n'y avait plus de repères et d'autres références. Puisque chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est qu'il n'y avait plus de cadre. Et vous savez... Dans une société, quand il n'y a plus de cadre d'une constitution ou d'une autorité établie ou élue, ça c'est notre République, quand il n'y a plus d'autorité dans un milieu scolaire, par exemple, On dit bien que quand le chat est parti, les souris dansent. Quand il n'y a plus d'autorité dans une église, qu'il n'y a plus de pasteur ou que c'est un pseudo-pasteur, excusez-moi. Mais les gens ne savent plus où ils en sont rendus. Les chrétiens sont malheureux. Ils se disent, mais vers qui nous tourner? Vers quoi faire? Alors bien sûr, ils ont Jésus. Bien sûr, ils ont cela, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des divisions, des mésententes, des heurts, des critiques, toutes sortes de choses. Parce qu'il n'y a plus de réelle autorité. Quand il n'y a plus d'autorité dans une famille entre un homme et une femme, qu'est-ce que ça donne, les enfants? Vous imaginez un peu cela? C'est le délitement de la société. Mais je n'invente rien, vous allez dire, mais j'exagère. Mais j'exagère pas, il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous. Tout simplement à tous les niveaux. Alors je voudrais vous dire que quand on lit le texte, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était à moitié vrai. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était vrai. Mais moi, je vais vous dire que je soulève un peu le problème. Certes, il y avait bien une autorité en Israël. Elle était instituée par Dieu, dont Moïse avait été le dispensateur. C'était une société fondée sur la loi du Mont Sinaï. Il y avait une constitution, puisqu'il y avait une loi. Quand il y a une loi, il y a une constitution. Mais il y avait un roi qui était un roi invisible. C'est pour ça que les Israélites, à un moment donné, dans leur errance dans le désert, ont dit « Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, construisons-nous un veau d'or. » Et ils se sont dit après, dans l'adoration devant ce veau d'or, « Eh bien, voici Israël ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Un veau. Quelle insulte au Dieu invisible. Et réduire Dieu à un animal. L'aberration de l'intelligence humaine quand elle dégrade, quand elle vire. Toute la vie des Hébreux reposait sur un régime de société appelé la théocratie. Et la théocratie, c'est Dieu qui conduit. Et dont le chef suprême et unique était Dieu lui-même, l'Éternel. Il y avait sa parole. Il y avait l'expression de sa volonté, qui était exprimée par des commandements auxquels il fallait obéir, et dont la mise en application assurait à Israël la vie, la santé, la paix, l'ordre et l'unité du peuple. Et vous voyez, les Israélites étaient sous la loi, mais Dieu leur avait donné déjà le principe de la foi, croire en un Dieu qu'on ne voit pas. Il y avait la loi, mais il y avait déjà sous-jacent ce qui sera proclamé d'une manière admirable et glorieuse dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la foi. Et la foi, vous savez, c'est croire ce que je ne vois pas, croire sans preuve. Donc on ne peut pas dire que l'Ancien Testament, c'est que de la loi. C'était déjà en préparation ce grand régime de la foi. Et c'est vrai que Dieu leur avait dit, c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome, mais si tu me sers, si tu m'obéis, si tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, alors à ce moment-là, eh bien tu auras la vie, tu auras le bonheur, je te ferai, tu multiplieras et je te bénirai. Un chef invisible, Dieu, une parole à observer, que les hommes entendent, c'est la loi. Un communicateur de la pensée divine, c'est Moïse. Alors nous, on n'a plus de Moïse maintenant, hein. On a plus que Moïse. La loi est venue par Moïse, nous dit l'évangile de Jean, mais la vérité nous est venue par Jésus-Christ. L'Église chrétienne s'inspire des mêmes bases. Un chef, Christ. Une parole, c'est l'évangile. Et puis, une communication ou un communicateur, c'est le Saint-Esprit, qui se manifeste à travers des ministères dons. Oui. Et puis à travers les uns et les autres, hein, naturellement. Les ministères dons. Dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, il a été constaté carence d'autorité et toujours la même réponse. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'on peut avoir Dieu, on peut croire en Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, et parce qu'on ne le voit pas, ça nous donne des libertés. On peut avoir une loi comme anciennement dans l'Ancien Testament, on peut connaître l'Évangile. On peut savoir que le Saint-Esprit est partout, il est en tout et partout et en tous. Et puis finalement, eh bien, faire comme on l'entend. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors le problème, c'est ce que Paul le dit d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans Romains, le problème ne se trouve pas ni dans la foi ou ni dans la loi, ni dans l'évangile, ni chez Dieu, ni en Christ, mais le problème se trouve dans l'homme. Et dans l'homme avec son rejet de se soumettre. C'est pour ça que la conversion, c'est pour ça que l'évangile a un premier message. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est l'élémentaire de l'évangile. Bien sûr qu'il y a tout le reste. Mais c'est d'abord de mourir à soi-même. Christ est mort pour nous et nous, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Tout en gardant la vie, naturellement. Mourir à nous-mêmes. J'aimerais donner un exemple maintenant, un exemple qui me semble patent, évident, de refus de l'autorité établie. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, il est dit cette histoire, il nous est dit que le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel ». Ce n'est pas Josué qui leur a demandé, c'est eux qui sont allés vers Josué en disant, « Eh bien, nous voulons servir l'Éternel ». Nous voulons le faire. Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel, que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Et le peuple a ajouté ceci, « Nous servirons l'Éternel et nous observerons sa voix. » Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et là, c'est important. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Et moi, je me pose la question après ce texte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été obéissants. Ils ont servi Dieu pendant la vie de Josué. Pendant la vie des anciens qui avaient connu Josué. Puis après, tout s'est évaporé. Vous savez, frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de faire attention à ce genre de choses. D'abord, une chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne marche pas en suivant un homme. On marche en suivant le Seigneur. Et la maturité spirituelle d'un chrétien, eh bien, va se révéler de la façon dont, à un moment ou à un autre, il a besoin d'église, il a besoin de frères et de sœurs, il a besoin certainement d'un accompagnateur, un pasteur ou des frères anciens, etc., etc. Mais à un moment donné, il est capable de s'assumer lui-même parce que on ne fait pas des disciples pour notre Église, on fait des disciples pour Jésus-Christ. Et une chose qui est assez certaine, c'est que dans la trajectoire de Moïse, il y a eu un Josué, il y a eu des anciens qui ont suivi Josué, enfin qui ont suivi naturellement Dieu, mais l'exemple. Et après, il n'y avait plus d'exemple. C'est ça le problème. Et l'histoire biblique nous apprend qu'après chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous savez, nous avons besoin, frères et sœurs, de demander à Dieu qu'il assure la survie de l'Église. Nous avons besoin de demander que Dieu assure la survie de la vie de l'Esprit dans notre Église. Mais ils veulent nous le donner, hein, ça, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous assure que nous ayons des ministères qui soient appelés par le Seigneur. Parce que quand il n'y a plus de ministères qui sont appelés par le Seigneur, alors à ce moment-là, ben, vous avez lu le texte, hein. Parce qu'une autorité, ça ne se fabrique pas. C'est Dieu qui la donne, l'autorité spirituelle. Elle est spirituelle ou elle ne l'est pas. Et ce qui est terrible, c'est que quelquefois, nous avons affaire, et nous sommes bien forcés de constater, nous n'avons plus affaire à des ministères dons, nous avons affaire à des animateurs spirituels. Et ça, ce n'est pas la même chose. Animateurs spirituels. Parce que quand vous avez affaire à un ministère comme Josué ou Moïse, vous avez des hommes qui se sont donnés à Dieu complètement. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, en tous les cas. Ils ne vivent pas pour des idées, ils ne vivent pas pour des, je ne sais quelle autre chose. Ils vivent parce qu'ils ont une tâche à remplir. Et ils vivent parce que Dieu leur a demandé, ce n'est pas eux qu'on choisit d'abord. Alors là, à ce moment-là, quand l'Église ou nos Églises auront à leur tête des hommes qui sont vraiment appelés par le Seigneur et qui resteront dans leur place et qui seront des hommes inspirés, des hommes spirituels, je peux vous dire que l'Église continuera. Hein. Mais à partir du moment où on fera n'importe quoi, eh bien il y aura n'importe quoi et chacun fera ce qui lui semble bon. Et on en arrivera, comme à Israël, à une dissolution de l'unité, de l'autorité de Dieu. Dans la suite de 1 Samuel 8, où nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, je rappelle le texte que nous avons lu, et vinrent auprès de Samuel et lui dirent « Tu es vieux !» Ah, ça arrivera à tout le monde. Hein. On ne peut pas faire un reproche à quelqu'un parce qu'il est vieux quand même. Ce n'est pas de sa faute. Parce que les gens qui disent ça, un jour ou l'autre, si Dieu leur prête vie, ils seront vieux aussi. Alors, tu es vieux. Maintenant, établis sur nous un roi, comme il y en a chez les autres nations. Nous voudrions bien avoir un peu ce qui se passe, la même chose qu'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un complexe quand même pour Israël, et un complexe dans l'Église chrétienne, c'est que nous voulons tellement être comme les autres. Le conformisme, et ça porte un nom, Rabelais l'a écrit, le panurgisme. Vous connaissez les moutons de Panurge? Et vous savez où ils se sont retrouvés, les moutons de Panurge? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Eh oui, c'est ça, tout le problème. Avec, pour conséquence, beaucoup de peine et de misère. Posons-nous la question dans notre vie spirituelle. Posons-nous la question dans nos églises. Posons-nous la question dans nos communautés, pourquoi les choses ne vont plus. Et n'accusons pas les autres. On va chercher toujours des boucs émissaires en disant ceci et cela, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que c'est plus Dieu qui règne, c'est tout. C'est plus le Saint-Esprit qui règne. Pas trop difficile à comprendre. En abandonnant l'obéissance et la dépendance de son Dieu, Israël ou l'homme, l'Église, s'expose à être bien malheureux. Bien malheureux. Où est la joie de nous retrouver ensemble? Où est la joie de chanter des cantiques de tout notre cœur? Où est la joie de pouvoir dire, eh bien ce matin il y a un culte, c'est la priorité de ma semaine. Mercredi soir il y a une réunion de prière, je vais aller à cette réunion parce que je me sens tellement concerné pour prier pour le salut des âmes. Et de voir mes frères et mes sœurs où nous allons serrer les coudes ensemble pour élever notre voix pour la ville dans laquelle nous sommes. Et ceci, et cela. Dans Ésaïe, vous savez, Dieu dit, comme un murmure, comme un chuchotement, oh si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme en fleuve et ton bien-être comme les flots de la mer. Vous êtes d'accord? Timide. Mais je sais que dans votre cœur, vous dites oui. Parce que c'est ce que nous voulons. Parce qu'autrement, vous ne seriez pas là ce matin. Vous le voulez. Mais le Seigneur va nous donner la capacité de non seulement de vouloir, puisque c'est lui qui a créé le vouloir et le faire en nous. Si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, mais tu serais heureux. Et on est malheureux pour ce qui se passe quelquefois dans nos églises. Des mariages qui partent à la dérive. Des situations impossibles. Des choses qui n'ont, excusez-moi, ni queue ni tête. Des mésententes entre chrétiens. Ils sont frères et sœurs. Et je vous l'ai dit dernièrement, si nous disons notre Père qui est aux cieux, eh bien, il faut savoir dire aussi mon frère qui est sur la terre et avec lequel je partage finalement la vie, notre humanité. Parce que si on est capable de dire notre Père qui est aux cieux, il faut dire aussi mon frère et ma sœur. Autrement, ce n'est pas notre Père. Enfin, lui n'est pas notre Père. Nous avons peut-être l'illusion de stresser ses enfants quand il y a de la haine et quand il y a des mauvaises choses dans notre cœur. Transfert de l'autorité juste, sainte, et qui est accaparée par l'homme, qui se croit en capacité de diriger sa vie et son destin. Connaissez les matelots là, qui sont partis sur le bateau de Paul? Il nous est dit, se croyant maître de leur sort. Ah! Alors, quand le chrétien en arrive à se croire maître de son sort, c'est qu'il ne doit plus y avoir grand-chose au fond de son cœur. Parce que Dieu est souverain, parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, parce que sa parole est bienveillante. Et il peut assurer notre bonheur, notre épanouissement et conduire l'homme dans sa véritable destination. C'est cela le but. Faut-il encore que nous, enfants de Dieu, nous le croyons et que nous l'acceptions? Et c'est ce que Israël ne voulait plus. Là est le problème d'un monde qui fait ce qui lui semble bon, en d'autres termes, qui fait et qui vit qu'avec ce qui lui plaît. Vous savez, les anciens, mes frères et mes sœurs, qui sont plus âgés que moi, vous allez certainement confirmer cette parole, vous n'avez pas toujours fait ce que vous aviez voulu dans la vie. Eh bien, c'est une funeste illusion d'imprégner notre génération qui vient et qui monte de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne feront pas ce qu'ils voudront. Le monde dans lequel nous sommes plongés, derrière des apparences de confort et de sécurité, ne nous laissera pas le choix. Quoi qu'il en soit, l'autorité descendue au niveau humain, sans perspective spirituelle, ne peut répondre à une humanité déchue, et cela, c'est quelque chose de catastrophique. À un besoin spirituel, il faut une réponse spirituelle, c'est l'Évangile. Et l'Évangile est spirituel. C'est pas des pansements, des emplates que l'on met de droite ou de gauche en disant « Maintenant, t'es boiteux, mais tu vas marcher quand même. » Non. Ouais. C'est autre chose. C'est une transformation intérieure de vie profonde. C'est autre chose. Pour terminer, et revenir à Israël, la royauté choisie par Israël, nous ne voulons plus. Nous voulons un roi maintenant. Nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous, mais nous voulons un roi. Donc c'est vraiment la dégradation, ce qui se passait dans le ciel et cette autorité divine et souveraine du ciel. L'homme a dit non, c'est un homme que nous voulons, parce qu'au moins l'homme, on va le voir, on va le toucher. Alors, ils ont eu comme héritage, en premier lieu, ils ont eu Saül. Et vous savez, Saül, le premier roi d'Israël, excusez-moi, mais c'était quelqu'un d'infect. Vous connaissez l'histoire. Il était grand, il était beau, il avait tout pour frapper les yeux, mais à l'intérieur de lui-même, c'était un mauvais, hein. C'était pas un bon. Donc si c'est pas un bon, c'était un mauvais. Alors, on s'aperçoit que la royauté qui avait été choisie par Israël a eu son cortège de déplaisirs et une somme phénoménale de souffrances, de détresse, d'angoisse, toutes sortes de choses pour le peuple qui l'avait choisi. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit il y a encore dernièrement dans un message, quand on veut à tout prix une chose, même contre la volonté de Dieu, eh bien Dieu veut nous la donner quand même. Et elle nous servira d'école, pas pour nous détruire, mais nous allons passer à ce moment-là, comme on a l'habitude de dire, au rouleau compresseur. Moi je l'ai vu, hein. Il y a des gens qui ont arraché des choses, des chrétiens, hein. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu, mais maintenant ils en bavent. Hein. Excusez-moi l'expression. Hein. Ils l'ont eu à l'arracher. Ils l'ont eu comme dans une mêlée, vous savez, où on prend les choses et on se les approprie, alors que Dieu avait dit non. Eh bien, comme ils les ont eues, Dieu a dit, maintenant tu le veux, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Maintenant, ne va pas pleurer, ne va pas crier, parce que tu es dans une situation où toi-même tu t'y es mise. Et l'histoire de la royauté d'Israël, c'était quelque chose de terrible. Ça s'est terminé par des ruines, par des défaites dans les combats, par des oppressions. Vous vous souvenez de l'histoire des Syriens, des Philistins qui existent encore aujourd'hui. Hein. Et puis toutes sortes d'impôts qui étaient là. Avant, ils n'avaient pas de tout ça. Mais ils ont dit, nous voulons être comme les autres nations. Ils l'ont eu. En application évangélique, pour terminer tout simplement notre texte, je prendrai dans Éphésiens cette parole où il est dit ceci au chapitre 1er et au verset que je retrouve la référence, verset 20-22. Il vous est dit que Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, je dirais même de toute royauté, puisqu'on tombe dans le sens de notre... Et que tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Celui dont il est dit qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, s'est déclaré doux et humble de cœur. Parce que ça, faut pas oublier. Tous les rois de la terre ont dominé. Ils ont écrasé, ils ont pilonné, ils se sont imposés. On a bien parlé dans notre pays de monarchie absolue. Mais ce roi-là qui nous est proposé par Dieu, il nous est dit qu'il est doux et humble de cœur. Jésus, frères et sœurs, est au-dessus de tout. Moi, je ne prêche pas un mouvement. Je ne prêche pas ceci ou cela, je prêche Jésus. Et tant que Dieu me donnera la vie, je veux prêcher Jésus. Je veux prêcher Jésus. Je ne peux pas prêcher un... toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec le christianisme, enfin qui ont des apparences de christianisme. C'est Jésus. Jésus au-dessus de tout, où tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ne renversons pas l'autorité de Christ sur l'Église. Laissons au Saint-Esprit nous inspirer dans nos actions, dans nos pensées et dans nos décisions. Ne demandons pas comme Israël hier des hommes qui régissent, qui régente et qui domine la vie de l'Église de Jésus-Christ. Et on y va de plus en plus, frères et sœurs. mais ça, ce n'est pas une histoire récente, hein, ça existe depuis les premiers siècles, de décadence du christianisme. Ne réclamons pas une organisation. Ne demandons pas et ne soupirons pas après un régime monarchique. Un roi, un prince, un souverain, fût-il pontife ? C'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Ne faisons pas de marketing politique dans l'Église. Nous avons mieux que du marketing. Ne n'utilisons pas des méthodes qui s'inspirent de ce que le monde use et abuse. Nous ne sommes pas conduits par des raisonnements humains, nous sommes conduits par un raisonnement renouvelé par le Saint-Esprit et nous avons une parole pour nous guider. Et nous avons quelqu'un qui nous suit et nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous transformer, nous renouveler en permanence. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose ? Israël disait « Donne-nous un roi ». Non ? Attention de ne pas verser dans la funeste illusion en remplaçant les boucliers d'or par des boucliers qui étaient en airain. Connaissez l'histoire de Salomon ? On a fait un message là-dessus hein, dernièrement. Hein. Parce que pour donner l'illusion qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore quelque chose, tout ça, ce sont des apparences. Élevons Dieu. Donnons à Dieu sa place et laissons l'homme à la sienne. Et c'est bien ce que Jésus a bien voulu nous dire. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, tout simplement. Et je termine. Malheur à celui qui usurpe l'autorité à des fins personnelles au profit d'un système humain, religieux. C'est très dangereux cela. Parce que finalement, je peux dire que dans les derniers temps, ce genre de ruine, ce genre de construction viendra s'intégrer dans le grand puzzle de la grande Babylone. J'ai peut-être des mots durs, mais c'est pourtant la réalité. Soit on a la vie de Dieu, on ne l'a pas. Et Dieu ne nous demande pas d'avoir des apparences, il nous demande d'avoir véritablement, eh bien là, quelque chose de réel au fond de nous-mêmes. Que et que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon. J'ai paraphrasé, vous avez remarqué. Et chacun faisait ce qui lui semble bon, et moi je dis, et que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon. Parce que ce qui nous semble bon, est-ce vraiment bon ? Et à quelle norme nous pouvons dire qu'une chose est bonne ? Parce que c'est ça le problème, quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus de références, quand il n'y a plus de niveau. On peut tout dire, eh bien maintenant, vous savez, on peut faire dans le domaine de la moralité, ou dans le domaine de la politique, ou dans le domaine du comportement ou des attitudes, on peut dire n'importe quoi. Et par rapport à quoi ? Il y a des gens qui vont dire, ben moi ce que j'ai fait c'est bon, parce que vous savez ce qui s'est passé dans la dernière guerre, hein, au tribunal de Nuremberg. Tous ceux qui étaient sur les bancs, condamnés par le tribunal international, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ce que nous avons fait, c'était mauvais. Ils sont restés aujourd'hui, pourquoi il y a encore ces néos, j'ajoute pas le mot, mais pourquoi ils sont-ils encore empreints de cette pensée ? C'est parce qu'ils ont pensé qu'en envoyant 6 millions de juifs dans les camps de concentration, mais ce qu'ils avaient fait, c'était bon. Ce qui nous semble vrai, bon, est-il vraiment bon ? Et qu'est-ce qu'en pense Dieu ? Eh bien, il nous dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, « Vos voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant mes voix, sont au-dessus de vos voix et que vos pensées, eh bien là, sont en... » La reconnaissance de l'autorité souveraine de Dieu sur nous, sur nos vies, conduit nécessairement à honorer, à satisfaire Dieu, alors que le rejet par désobéissance, par indépendance ou par suffisance de son pouvoir nous amène à l'idolâtrie. Et le mot idolâtrie revient très 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 souvent dans l'Ancien Testament, mais il revient une ou deux fois dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 5, et le dernier verset du chapitre 5, il est dit « Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants maintenant. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, en effet, Père éternel, il nous faut que nous ayons des réactions. Et des réactions qui ne sont pas des réactions comme battant l'air, mais nous devons vraiment avoir des réactions qui soit motivé par nos convictions. Et notre conviction, c'est que tu es Dieu. Et pour nous, pour moi, Seigneur, tu restes Dieu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous n'avons pas besoin d'un homme, nous n'avons pas besoin d'un roi, nous n'avons pas besoin de ceci et cela, ou de méthode ou autre chose. Ce qui nous est important, Seigneur, c'est que nous ayons ta parole et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit et que nous apprenions, Seigneur, véritablement à t'aimer, puisque dans l'essentiel, dans l'essence même, Seigneur, de ce que tu demandes à l'homme, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Jésus. Amen.